Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 milieux sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Vous avez 5 minutes ? Peut-on se passer de la voiture ? Il va bien falloir. Mais en attendant, la guerre fait rage dès qu'on aborde les questions de circulation dans les grands centres urbains. Une polémique qui vient d'être ravivée par la volonté de la mairie de Paris d'interdire la capitale aux véhicules à essence dès 2030. Moi, je suis clairement dans le camp des vélos et des transports en commun et j'ai du mal à comprendre un tel attachement à la voiture. J'ai donc demandé à Mathieu Flonneau, maître de conférences et spécialiste de l'histoire des mobilités, de m'expliquer pourquoi l'automobile tient encore une telle place dans nos vies. Mathieu Flonneau, bonjour.
Bonjour.
Je voulais avoir vos lumières sur le débat sur la circulation automobile qui soulève de vives polémiques aujourd'hui. On parle de Paris, mais ça touche aussi les grands centres urbains. On a l'impression que c'est le vélo le problème et plus la voiture. Comment on en est arrivé là ?
Bah, comme vous le dites, le tableau il doit être un peu élargi, même si le théâtre parisien est quelque chose de significatif. Il reste quand même anecdotique eu égard à l'histoire générale des mobilités. Anecdotique, je veux dire que, évidemment, quelques fermetures de voiries en centre-ville font beaucoup parler, beaucoup écrire et polarisent un débat désormais national sur la place de l'automobile, mais tout particulièrement en ville. Et donc il faut absolument aussi conserver cet aspect des choses, c'est que quelques kilomètres d'hypercentre condamnés à l'automobile ne suggèrent pas que la solution automobile est invalidée partout. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Il faut relativiser le débat parisien, le débat parigo-parisien même, et élargir vraiment la perspective. Alors, ce qu'on constate justement en élargissant, c'est que d'autres villes accomplissent pour leur hypercentre la même politique. Et donc, cette politique, eh bien, elle vise aussi à accompagner des transformations des centres-villes, des populations des centres-villes, une forme de renouvellement urbain et de changement profond de ces métropoles dans leurs quartiers les plus huppés.
Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que notre rapport à l'automobile a évolué dans le temps ? Est-ce qu'il a une place différente dans nos habitudes, dans notre quotidien, dans nos villes ?
Alors là, vous soulignez un point capital. Et pour Paris, là, ça devient essentiel. Paris a contribué à l'essor universel de la civilisation automobile. Et ce point-là mérite d'être souligné, éventuellement d'être mis dans un musée, ce qui n'existe pas en région parisienne, un musée de la civilisation automobile à laquelle on a beaucoup concédé parce qu'on en attendait beaucoup. Et elle a apporté beaucoup pendant plusieurs décennies. Et si on a accepté ce qu'on appelle aujourd'hui un peu en termes de docteur une dépendance automobile, eh bien c'est parce qu'on l'a accepté. C'est parce que l'automobile permettait une démocratisation réelle de l'accès à la cité, une démocratisation réelle de l'accès à l'espace. L'automobile a apporté avec elle toute une convivialité territoriale que aujourd'hui, victime de son succès, elle semble retirer. De surcroît, il y a une problématique qui ne vous aura pas échappé et qui est centrale dans au moins l'affichage politique de ces reconquêtes, même s'il peut être discutable, c'est que cette politique, elle est clairement écologique. Et donc, elle est clairement orientée vers un nouveau rapport à l'environnement, moins agressif, moins polluant, bien évidemment. Mais encore faut-il raisonner sur toute la chaîne des mobilités et sur toute la chaîne aussi des activités urbaines.
On a quand même l'impression que le dialogue est impossible entre les tenants du tout voiture et ceux qui veulent des modes de déplacement plus propres, plus écolos. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que les deux camps se parlent ?
L'affaire est clairement politique et aussi idéologique. vous l'avez souligné, il y a une forme de clivage qui est entretenue par la communication. Et là, de ce point de vue-là, eh bien, les autorités municipales ont une responsabilité, c'est-à-dire qu'il faut bien cibler les enquêtes, il faut bien cibler l'interprétation des réponses. On pourrait espérer une réflexion d'emblée sur le Grand Paris, ce qui n'est pas fait pour ce qui est de la région parisienne. On constate qu'on fonctionne encore relativement en silo. Et surtout, vous avez une dimension qui est neuve dans cette politique, qui pendant longtemps a été un impensé. Ça fait 20 ans que je travaille la question de la circulation à Paris pour mes travaux historiques. Aujourd'hui, il est clairement établi que c'est un fait politique, c'est un fait de débat politique, ce qui n'était pas le cas il y a une quinzaine d'années, où je pouvais travailler d'autant plus librement. Désormais, vous êtes pris dans un storytelling simplificateur, et ce storytelling simplificateur, eh bien, vise à donner un récit qui fait que ça a été redit récemment, et cela m'attriste à certains égards parce que ça appauvrit le débat. Seul un lobby aurait imposé l'automobile. Cette lecture de l'histoire est vraiment réductrice parce qu'il y a eu une demande des populations.
Et j'ai vu passer sur le net des photos du Paris des années 50 qui ressemblaient à un vrai parking à ciel ouvert. Est-ce qu'il faut se souvenir de cette histoire pour en tirer les conséquences ? Certains regardent ça comme si c'était un temps béni, mais est-ce que c'était vraiment un temps béni ?
Alors la question du temps béni ne se pose pas pour l'historien, qui est très méfiant vis-à-vis de l'âge d'or et vis-à-vis du sens de l'histoire, voire du bon sens de l'histoire, puisque ce mot a été employé aussi avec un H majuscule récemment. Ce que je veux dire, c'est que ça fait 50 ans que l'automobile est régulée à Paris. Lorsque vous parlez d'un parking à ciel ouvert, effectivement, jusque dans les années 1960-70, jusqu'au moment de rupture, au moment où eh bien, l'automobile devient trop envahissante en termes viraux, c'est-à-dire qu'elle s'est répandue partout, on a commencé à reconquérir alors des espaces publics pour la circulation des transports en commun, et cet équilibre il est contemporain des années 70-80. On a reconquis également toutes les places symboliques où, comme vous le disiez, on stationnait même, et je le sais bien, dans les cours de la Sorbonne, dans les cours du Louvre. Bref, l'automobile a été refoulée, elle a été contenue. Et donc cet aspect d'amalgame, relativement intelligent quand même, et ceci je le soutiens, les ingénieurs n'étaient pas dédiés au mal-être public dans les années 60. Cet équilibre, cet amalgame entre les pierres et le métal des carrosseries, il a existé, il a représenté une forme d'équilibre à Paris. Encore une fois, il faut comprendre les Trente Glorieuses dans la logique de croissance économique généralisée, de progrès social généralisé, et la place de l'automobile dans cette problématique, elle est claire, l'automobile est le vecteur de ce progrès social. Alors, sous les différentes pressions que j'ai évoquées tout à l'heure, écologique, patrimonial, il y a une rediscussion, et c'est ma foi légitime, il ne faut pas perdre de vue cette histoire.
Et il y a quand même une tendance globale à privilégier des modes de déplacement plus propres. Est-ce qu'il y a d'autres choix que d'être volontariste sur ce sujet ?
C'est très difficile à dire. Moi, j'admire ceux qui ont des certitudes en la matière, et donc, de ce point de vue-là, ils jouent leur rôle de politique. Mais c'est très difficile d'exclure, de choisir d'exclure des usagers qui ont une légitimité sur le territoire. Et la question de l'automobilisme, de tous ces usages, du dernier kilomètre qui est irremplaçable, eh bien, elle se pose dans toute son ampleur. Et il faut prendre en compte des intérêts divergents.
Une petite question personnelle. Comment vous vous déplacez, vous ?
Là, voyez-vous, je suis sur un vélo.
Je vous remercie beaucoup pour votre point de vue.
Je vous en prie.
Binge audio.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi ? Qui étaient ces disparus ? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée ? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.